Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou les assises nationales sur la transition devant aboutir à l'adoption de la charte et de l'agenda de la transition. Initialement prévue ce lundi, c'est mercredi prochain qu'aura lieu la cérémonie d'investiture du président Paul-Henri Damiba. Décision prise suite à l'annonce des obsèques du président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, prévue demain mardi. La guerre en Ukraine est entrée dans son cinquième jour et c'est aujourd'hui que des pourparlers entre Kiev et Moscou ont débuté à la frontière avec le Bélarus. Et puis comment rendre notre système fiscal équitable? C'est à cette question que répond Herman Douagneau, le directeur exécutif du Centre d'études et de recherches appliquées en finances publiques. Il est notre invité du jour. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou, la capitale burkinabé, les assises nationales sur la transition devant aboutir à l'adoption de la charte et de l'agenda de la transition. C'est le lieutenant-colonel Evrad Somda, représentant du président du Faso, qui a ouvert les travaux des assises nationales à la salle de conférence de Ouagadougou. Les travaux vont se dérouler en quatre phases. Le point avec Abdulaziz Zoulabou.
Ces assises devront permettre d'examiner et d'adopter la charte de la transition, de fixer un calendrier de déroulement de la transition, mais aussi de permettre la désignation du président devant la conduire. C'est le lieu pour le chef de l'État, représenté par le lieutenant-colonel Evrad Somda, de rappeler aux participants l'intérêt de ces travaux. Ces assises nationales constituent le point de départ officiel de l'œuvre de refondation portée par le MPSR. Cela a, à mon sens, décuplé les responsabilités qui vous reviennent, vous, participants à ces assises et représentants des forces vives de la nation, a-t-il précisé. Les conclusions de ces travaux sont attendues à 18h30, suivies de la signature de la charte par le président du Faso, Paul-Henri Damiba. Le projet de charte prévoit 30 mois comme durée de la transition, un premier ministre civil désigné par le président et un gouvernement de 20 membres. Il prévoit également une assemblée de 51 membres. Selon le document non officiel, les principales missions de la transition restent entre autres la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire. Les organes de cette transition sont le président de la transition, le conseil d'orientation et de suivi de la transition, le gouvernement de transition et une assemblée législative de la transition. Le projet indique que le président de la transition occupe les fonctions de président du Faso, chef de l'État. Le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle, précisant que le président de la transition n'est pas éligible aux prochaines élections. En outre, le MPSR devrait cesser d'exister dès la mise en place effective des organes de la transition. Dès son adoption, la charte de la transition abroge l'acte fondamental du 29 janvier. La charte doit en principe entrer en vigueur dès sa promulgation, note le document.
Abdulaziz Zoulabou, la cérémonie d'investiture du président de la transition, initialement prévue ce lundi 28 février, est reportée au mercredi prochain à 10h dans la salle des banquets de Ouagadougou. La décision a été prise à travers un communiqué de la Direction générale du protocole d'État hier dimanche. Elle fait suite à l'annonce des obsèques du président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, prévue demain, mardi 1er mars 2022 à Ouagadougou. Un groupe de producteurs de coton dénonce la mauvaise gestion des fonds de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, venu des provinces du Houé, des Balé, des Banwa, de la Boucle du Moun, de la Kossi, du Nayala, du Tui, de la Komoé, de la Leraba, de la Sicilie, du Ioba et de Diébougou. Ces producteurs étaient face à la presse vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Ils réclament également justice sur l'affaire Karim Traoré, ancien président de la dite organisation et son équipe. Des précisions dans ce reportage de Paul Soma.
Ces représentants des producteurs de coton pointent des doigts Karim Traoré, ancien président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, et l'équipe de gestion en fin de mandat d'une gestion catastrophique de leurs ressources. Casimir Nyomo est le porte-parole.
Depuis 2014, les producteurs de coton ont dénoncé la gestion opaque, mafieuse et clanique des ressources financières issues de la récupération des 5 francs par kilogramme et par cotonculteur. Karim Traoré et son conseil de gestion avaient mis en place un plan machiavélique pour s'accaparer et se distribuer les ressources des cotonculteurs. Le montant total des détournements s'élève à 1 290 918 419 francs.
Malgré les conclusions de l'ASCLC, le cri de cœur de ces producteurs n'est toujours pas entendu, à en croire leur porte-parole Casimir Nyomo.
Nous saluons l'équipe de l'ASCLC qui n'a ménagé aucun effort pour l'audit qu'il a commandité à l'UNPCB, ayant permis l'incarcération de Karim Traoré à la Massibé pendant 6 mois. La justice n'arrive pas à faire la lumière sur le jugement, nous manifestons et revendiquons que justice soit faite.
Cependant, il recommande un nouvel audit au sein de l'UNPCB afin de situer les responsabilités de chaque acteur.
Nous sommes présents ici pour empêcher cette manipulation, cette traîtrise, cette corruption à des fins personnelles et non au profit de l'UNPCB. Et demandons à ce que la somme des 1 218 419 francs soit remboursée.
Et pour le renouvellement des instances qui s'annoncent, Casimir Nyomo et ses camarades soupçonnent fortement l'implication de la Sofitex qui, selon eux, manœuvre les producteurs afin d'installer un conseil de gestion en leur faveur. Quant au conseil de gestion sortant, il aurait distribué la somme de 200 millions de francs CFA dans le but de corrompre les unions provinciales et départementales, foi de Casimir Nyomo. Paul Soma, Bobo, Omega Media.
Tout autre sujet, l'artiste musicienne Nina Meda, alias Nina, a présenté au public son tout premier album musical de 6 titres samedi à Ouagadougou, Milba, en langue d'Agara, qui signifie « Bats-toi pour ta survie », est le titre de l'opus avec lequel l'artiste originaire du Sud-Ouest donne rendez-vous aux mélomanes sur les scènes de prestation. Compte rendu de cette cérémonie de dédicace avec Romain Ouari.
Né d'une famille de griots, précisément de la troupe balafoniste Baobé du village de Kopé dans le sud-ouest, l'artiste Nina a évolué dans des chorales, des groupes de musique live avant de se lancer en solo. Elle revient sur les thèmes qu'elle a abordés dans ce nouveau opus. L'artiste Nina.
J'ai abordé plusieurs thèmes tels que l'amour, la cohésion sociale, la combativité, le chômage. Aussi, j'ai fait une action de grâce.
L'artiste a bénéficié de l'accompagnement de professionnels du milieu qui apprécient d'ailleurs son talent. Maximilien Sommet, professeur de musique à l'INAFAC et membre du groupe musical Le Levain, qui a été le directeur artistique de l'album, se prononce.
Nina, je dirais que c'est un talent pur parce qu'elle est réelle. Beaucoup de gens dans les studios mettent des effets, etc., etc. Mais Nina, dès que tu la connais, tu la vois sur la scène, elle est exactement la même chose, que ce soit dans le studio et sur la scène. Parce qu'elle a eu l'avantage de fréquenter les orchestres, elle a eu l'avantage de faire la chorale, donc elle a eu une bonne base dans la formation du chant et de la technique vocale.
La marraine artistique de la dédicace, l'artiste Idaka Bassavi, a félicité l'artiste et l'a invité à persévérer.
J'ai écouté l'album, j'ai vu qu'il y a beaucoup de recherches dedans. Elle a beaucoup panaché de la variété avec la musique du terroir que j'adore beaucoup d'ailleurs. Elle fait aussi du reggae et la musique dansante. Elle chante aussi dans d'autres langues telles que le moré en français aussi et dans sa langue qui est le Dagara. Et moi j'ai beaucoup apprécié et je félicite beaucoup Nina.
Parents, amis et connaissants étaient nombreux à effectuer le déplacement pour soutenir l'artiste. Ils ont alors esquissé des pas de danse d'Agara dans une ambiance bon enfant.
L'actualité internationale. Depuis le début des hostilités lancées le 24 février dernier, la guerre du Donbass ou guerre en Ukraine continue de faire la une de l'actualité. Pendant que la Russie revendique la suprématie dans l'espace aérien ukrainien, Kiev exige un cessez-le-feu immédiat. Et alors que la guerre en Ukraine entre dans son 5e jour, les combats font toujours rage entre une armée russe qui avance inexorablement dans le pays et des forces ukrainiennes Ukraine qui lui oppose une farouche résistance. Le président ukrainien a demandé ce matin que son pays obtienne son intégration sans délai dans l'UE. Au niveau diplomatique, économique, sportif, des mesures de sanctions sont adoptées tous les jours. Selon une déclaration du Kremlin, le président russe est en train de se concentrer sur la réponse économique à apporter aux sanctions occidentales. Vladimir Poutine assure que la Russie saura compenser les dommages dus aux lourdes sanctions.
Omega Sport.
L'actualité sportive de ce midi est présentée par Bernabé Cabri.
Championnat national pour débuter, l'EFO conserve son fauteuil de leader. La Reine des Stades a fait match nul 0-0 face au Kikwa FC à l'occasion de la 16e journée disputée ce week-end. Ses poursuivants immédiats n'ont pas su en profiter. Le RCK a été battu 1-0 par l'ASFA et l'USFA a été accroché 1-1. Par la S-Police, l'EFO leader compte 2 points d'avance sur l'USFA 2e et l'ASFA 3e et désormais 3 unités de plus que le Rai Club du Kadiogo 4e. L'antenne rouge avant la reprise, la S-Kuritenga a sorti le grand jeu pour se débarrasser du Majestic 3-0. Si le Majestic reste 5e, la S-Kuritenga dernier revient à 2 points de la SFB 15e et du RCB 14e. Dans le derby qui a opposé ces deux clubs phares de Bobo Dioulasso, c'est la SFB qui a pris le dessus 1-0. Dans les autres matchs, la S-Douane s'est imposée 1-0 devant Vitesse FC. Victoire de l'AS Sonabel 1-0 face à Salitas FC et match nul 1-1 entre Royal FC et la SEC de Koutougou. Pas de repos, on enchaîne demain avec la 17e journée. L'EFO sera opposé au Majestic à 15h30 au stade Issoufou Joseph Konombo et l'ASFB accueille le RCK au stade Wobi. Mercredi, 2 matchs au stade Issoufou Joseph Konombo. ASFA Yenenga RCB à 15h30 et AS Douane USFA à 17h45. Vitesse FC AS Police va se jouer au stade Wobi. ASEC Salitas FC à Koudougou, AS Kuritenga Kiko FC à Koupela et Royal FC AS Sonabel au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Face à la crise qui secoue actuellement la Fédération Burkinabé de football, Amadou Traoré a invité Lazare Ban ce dimanche dans un communiqué à entreprendre sans délai de larges concertations en vue de la formation d'un nouveau bureau du comité exécutif. Le PCA du Majestic est candidat malheureux lors des dernières élections, dit craindre une crise institutionnelle avec possibilité de blocage des activités de la fédération. Une fois le nouveau bureau mis en place, Amadou Traoré souhaite la relecture des textes pour les conformer aux aspirations profondes des acteurs du football burkinabé. La 3e journée de la Ligue africaine des champions s'est disputée ce week-end. 3e match et 3e défaite pour le Oroya de Guinée. Le club d'Oulan Abbas Traoré, Okansé Mandela et Drama Nkema est tombé 1-0 face au Raja de Casablanca. Dans le même temps, Amazulu d'Afrique du Sud a battu les Algériens de Sétif 1-0. Le Raja est leader avec 9 points, suivi de Amazulu 6 points, Sétif 3 points 3e et le Oroya 0 points dernier. Le derby soudanais a vu Al-Merrek battre le Al-Hilal 1-0 alors que le champion en titre le Al-Ahli a été battu à domicile par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 1-0. Mamelodi est premier de ce groupe avec 7 points, suivi de Al-Merrek 4 points et un match en moins. Le Al-Ahli 3e, 1 point, compte également un match en retard alors que le Al-Hilal est dernier avec 1 unité. Le duel tunisien du groupe C a vu l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel se quitter 0-0. Les Algériens de Belouizdad sont allés s'imposer 2-1 au Botswana devant Jaouen Galaxy. L'Espérance, fort de ses 5 points plus 4, est en tête, suivi de Belouizdad 5 points plus 1. L'Étoile du Sahel à 3 points et 3e. Jaouen Galaxy du Botswana ferme la marche avec 1 point. Auto derby, celui de l'Angola qui a vu Petro Atlético battre Sagrada 1-0. Le choc entre le WAC de Casablanca et le Zamalek d'Égypte a vu le WAC s'imposer 3-1. Avec 7 points, Petro Atlético est leader, suivi du WAC de Casablanca 6 points. Le Zamalek est 3e avec 2 points et Sagrada ferme la marche avec 1 unité.
La revue de presse.
L'examen de la charte de la transition, l'adoption de l'agenda et la charte des valeurs ainsi que la guerre en Ukraine sont les sujets qui font la une de nos quotidiens ce lundi 28 février. La revue de presse, c'est avec Valérie Guéry.
Les journaux du jour rappellent que c'est en principe aujourd'hui, dernier jour du mois, que vont se tenir à Ouagadougou les assises nationales et le pays bien inquiet s'interroge. Le MPSR avance-t-il masqué, prêter serment devant les sages du Conseil constitutionnel, organiser des assises nationales au PAC Commando et se faire investir comme président du FASO par les forces vives de la nation ne lui permettront pas de trouver grâce aux yeux de ses compatriotes. Tant que l'arrière-pays restera sous la coupe réglée des terroristes, transition et agenda, tout va se savoir aujourd'hui. Peut-on lire à la une de l'Express du Faso? Pour le journal Bobolais, tout porte à croire que les forces vives de la nation sont invitées à porter à Paul-Henri Damiba une camisole déjà cousue à sa taille depuis le 24 janvier 2022. Mais ceux qui pensaient que la prestation de serment du président Damiba devant le Conseil constitutionnel le 16 février dernier lui conférait tous les pleins pouvoirs vont encore assister à la désignation du président de la transition et à son investiture, souligne le quotidien un peu déboussolé. On se perd vraiment puisqu'on n'y comprend plus. Quoi qu'il en soit, notre confrère pense que tout est maintenant en place pour passer à la vitesse supérieure sur le terrain. Pour Sidoya, assailli de toutes parts par les attaques terroristes, les Burkinabés tiennent le MPSR au mot et n'attendent rien de moins des organes de la transition que la relance rapide, véritable de la machine administrative, sécuritaire, économique et les jalons de la refondation. Selon l'Express du Faso, c'est une aubaine pour passer à la vitesse supérieure. Le quotidien espère ainsi qu'à partir de ce jour, 28 février 2022, les ministères vont pouvoir revivre normalement parce qu'un gouvernement aura été mis en place. C'est ce qui importe et c'est ce qui est fondamental. Le reste n'est qu'une perte de temps. Autre sujet qui intéresse les quotidiens, c'est la guerre en Ukraine, qui est à la fois si loin et si proche de l'Afrique, s'exclame l'observateur Palga, qui pense que si elle s'installe dans la durée, ceux des pays du continent qui ont des rapports privilégiés avec la Russie peuvent craindre de graves difficultés commerciales et financières, conclut l'Obs.
L'invité de la rédaction.
Notre invité est Herman Douagneau. Il est le directeur exécutif du Centre d'études et de recherches appliquées en finances publiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, il a travaillé sur l'équité fiscale au Burkina Faso. Le CIRAFP pointe du doigt un système fiscal loin d'être équitable où les plus gros contribuables bénéficient d'exonérations fiscales au détriment des populations vulnérables. Le CIRAFP prône donc une fiscalité progressive. Herman Douagneau est interrogé par Alinta Ouedraogo.
Bonjour Monsieur Douagneau.
Bonjour.
Peut-on dire que le système fiscal est inégalement réparti au Burkina Faso?
Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous avons un système fiscal qui est encore à la recherche de son équité. Parce que tout simplement, nous avons des injustices qui sont liées donc à sa caractéristique. C'est un système qui est purement déclaratif, donc qui pose beaucoup un caractère déclaratif du revenu à imposer, ce qui suppose qu'on fait confiance au contribuable, mais aussi que ce contribuable-là peut jouer au plus malin, donc déclarer un revenu en deçà du revenu qui doit être imposé. Aussi, on a un système qui a un fort caractère dérogatoire. Le fort caractère dérogatoire, c'est qu'on accorde beaucoup d'avantages fiscaux. Et pour exemple, en 2019, on avait donc une perte budgétaire liée à ces avantages fiscaux autour de 76 milliards. Et en 2020, 110 milliards. Ce qui veut dire que l'État du Burkina paie énormément d'argent. Et 72% en moins donc de ces avantages fiscaux bénéficient aux entreprises. Alors que dans une analyse économique, on se dit quand même qu'une entreprise a plus de moyens de s'acquitter de ses obligations fiscales que les ménages. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y a que 13% donc de ces avantages fiscaux-là qui parviennent aux ménages pour renforcer donc le pouvoir d'achat et leur permettre d'avoir accès donc à un certain nombre de biens et de services donc de première nécessité. Donc du coup, cela renvoie à une certaine injustice donc dans le système fiscal.
Alors, dites-nous, quels sont les points positifs du système fiscal au Burkina?
L'existence donc de taux progressifs au niveau de certains impôts, tels que l'impôt unique sur le terme salaire, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et agricoles, et puis l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, et aussi l'impôt sur les revenus fonciers, l'IRF, démontre que on a quand même engagé une certaine réflexion sur l'équité dans ce système-là. Et ça permet justement de réduire la charge fiscale donc de certains contribuables et en fonction donc de leur capacité contributive. Donc ça, c'est assez important. L'autre aspect aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est l'utilisation même des ressources collectées donc au niveau donc de ce système-là. Tant qu'on ne pourra pas mettre le doigt sur les besoins réels des populations et pouvoir exécuter les budgets en fonction de ces besoins pour donc réduire le taux de pauvreté et permettre à toutes les couches de la population de pouvoir s'épanouir en réduisant au maximum donc les inégalités socio-économiques, on assistera toujours à de la frustration, ce qui peut engendrer donc à un moment donné des crises sociales, mais aussi des crises de niveau sécuritaire. Et aujourd'hui, même sur le plan sécuritaire, nous disons que le gouvernement a une grosse part parce qu'il y a des populations qui se sont senties délaissées, qui se sont senties mises à l'écart de la gestion des affaires publiques et qui aujourd'hui sont en train de se chercher, sont en train de vouloir avoir en fait des revenus par des moyens à la limite illégaux. Ce sont des moyens illégaux et même des moyens criminels. Et donc, c'est ce qui fait que dans la conduite de la politique fiscale et même dans l'utilisation de ces ressources-là, il faut intégrer l'aspect de justice et sociale et faire en sorte que ces populations-là se sentent dans un pays, se sentent en confiance et sentent également que leurs besoins sont pris en charge par les plus hauts dirigeants donc, de ce pays et que justement, il y a une certaine harmonie donc, dans le développement. Et c'est ce qu'on appelle donc le développement durable.
Vous avez formulé des recommandations à l'endroit des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Nous avons effectivement à l'issue de l'étude fait des recommandations. Premièrement, c'est de pouvoir donc assurer l'équilibre entre les trois fonctions de l'impôt, donc le rôle financier et le rôle économique et le rôle social, en établissant donc une cohérence dans les politiques. Ce que je disais, donc ça veut dire qu'on finance des politiques de développement et justement la mise en œuvre de ces politiques de développement devrait avoir des effets sur les conditions de vie des populations. Il faut aussi rappeler que nous avons recommandé d'imposer la fortune. Donc l'imposition de la fortune, on a des personnes au Burkina, physiques ou morales, qui sont assez nantis, qui ont même à des moments fêté des milliards. Donc ces personnes-là doivent pouvoir donner un peu à l'État pour que l'État puisse prendre en charge donc les personnes les moins nantis.
À l'instant, notre invité Herman Douagneau, le directeur exécutif du Centre d'études et de recherches appliquées en finances publiques. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Bourema Maïga. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.